Radio Classique, les spécialistes.
Ben, la grande affaire de la journée, c'est donc la possible destitution, mais rien n'est joué pour l'instant de Donald Trump. Mais nous allons partir pour le Liban, car le pays va se reconfiner à partir de demain. Et face au regain de la pandémie, les mesures prises sont particulièrement draconiennes. Voici des exemples. Bonjour Emmanuel Faux. Racontez-nous ce qui se passe dans ce beau pays qu'est le Liban, gravement touché.
Eh bien écoutez, l'interdiction de sortir de chez soi, même pour faire les courses ou pour promener son chien, la fermeture des supermarchés qui vont être cantonnés à la livraison, on a rarement vu un dispositif aussi sévère dans un pays en proie à la Covid-19, et c'est ce dispositif qui sera en place dès demain matin et pendant 11 jours, c'est précis, là aussi la durée est inédite. Seule exception, les travailleurs dits essentiels, personnel soignant, militaire, pompier, journaliste. Alors, il faut dire que les derniers chiffres libanais sont très mauvais, avec des contaminations en hausse de 70% d'une semaine sur l'autre, ce qui donne plus de 220 000 cas recensés pour une population de 6 millions d'habitants. Ben, c'est bien simple, un Libanais sur 30 est aujourd'hui touché par le coronavirus. C'est une proportion équivalente à celle que l'on trouve actuellement à Londres dans la situation d'urgence que je vous décrivais hier matin. Dans ce contexte, les frontières terrestres, aériennes et maritimes du Liban vont rester fermés jusqu'au 25 janvier au moins, et seuls quelques avions en provenance de l'étranger pourront se poser sur l'aéroport de Beyrouth. Problème aussi de taille, dans certaines régions à l'écart de la capitale, les supermarchés ne vont pas être en mesure de livrer toute une partie de la population et l'on redoute des pénuries alimentaires.
Et nous sommes dans un Liban en pleine crise sociale.
Oui, c'est certain, et c'est la crainte de certaines ONG comme Save the Children au Liban, que ces mesures n'aggravent encore les choses. L'ONG qui s'inquiète par exemple du sort des familles les plus pauvres et de leurs enfants qui vont être livrés à eux-mêmes dans le huis clos du confinement très strict, surtout en l'absence de toute aide des pouvoirs publics. Or, la crise sanitaire est venue se greffer sur un tissu social déjà très déchiré, faute de gouvernement pendant des mois, et pendant que les partis libanais se disputaient des portefeuilles ministériels comme dans une cour de récréation, eh bien la misère sociale n'a fait que gagner du terrain. Des entreprises ont mis la clé sous la porte et des milliers de foyers ont perdu tous leurs revenus. La double explosion dans le port de Beyrouth le 4 août dernier, on s'en souvient, a dynamité toute une partie de l'activité économique du pays. Et la situation politique reste désespérément bloquée. Songez que Saad Hariri, qui avait démissionné de son poste de Premier ministre à l'automne 2019 face aux manifestations massives contre la corruption, est revenu, si j'ose dire, aux affaires. Le président libanais Michel Aoun l'a chargé de former un nouveau gouvernement fin octobre. Nous sommes 3 mois plus tard, il n'a toujours pas été investi, il n'est toujours pas en mesure de gouverner. On pourrait presque qualifier la situation d'ubuesque si elle n'avait pas des conséquences sociales aussi dramatiques.
7h44, la signature d'Emmanuel Faux. Nous passons à l'économie, ou plutôt au sanitaire, avec évidemment la polémique qui tourne autour de l'irruption du privé et d'utilisation d'un certain nombre de sociétés de conseil par le gouvernement pour améliorer la politique de vaccination, notamment McKinsey. C'est vrai que ce matin, Dimitri Pavlenko, les gens qui utilisent par exemple massivement Amazon, maintenant un peu pour tout, se disent si on avait chargé Amazon de piloter cette politique de vaccination, ça marcherait mieux que ce qui se fait avec le gouvernement. Oui. N'exagérons pas, c'est un sujet de réflexion.
Oui, c'est un peu extrême, et on a un exemple aussi hier avec la polémique entourant le recours à Doctolib et aux plateformes de prise de rendez-vous médical, Doctolib, Maya, Keldoc, pendant la prise de rendez-vous pour la vaccination. Alors, tweet de Jean-Luc Mélenchon qui s'effare que on donne au privé des choses que la puissance publique devrait savoir faire. Mais le problème, c'est qu'elle ne sait pas le faire. L'assurance maladie n'a pas de système de prise de rendez-vous. On a dit, mais tous anti-Covid, on ne pourrait pas prendre rendez-vous dans l'application. Sauf qu'on avait dit, il ne faut surtout pas que tous anti-Covid aient accès aux données personnelles. Or, si on peut prendre rendez-vous, forcément, on livre des données personnelles. Moi, je trouve cette polémique totalement absurde, puisque Doctolib, en l'occurrence, c'est 42 millions d'utilisateurs. Ils gèrent extrêmement bien la prise de rendez-vous.
Tout le monde a affaire à Doctolib. Voilà. Vous prenez un rendez-vous dans un hôpital, vous avez un message.
Voilà, tout à fait. Pourquoi s'en priver ? Vous dites Amazon pour la logistique de la livraison du vaccin.
J'ironise un peu.
Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on l'a entendu dans le privé, où il y avait des gens qui le disent, sans doute que ça se passerait plus vite, que le vaccin arriverait plus rapidement. Sur McKinsey, très intéressant. Alors là, tout le monde s'effare. Comment se fait-il que l'État l'État fasse appel à un cabinet de conseil de surcroît américain pour des choses que la puissance publique devrait savoir faire. Mais vous savez, même dans une entreprise d'ailleurs, quand on a recours à un cabinet de conseil extérieur, c'est souvent assez mal vécu par les collaborateurs. Mais ce qui est grave, c'est qu'on imagine toujours que l'État, la puissance publique, devrait être une bulle hermétique, capable de tout faire. Eh ben non, ça n'est pas le cas. En l'occurrence, il y a des compétences dans le privé, pourquoi s'en passer ? Aux États-Unis, je terminerai là-dessus, je vous donne un exemple, Uber et Lyft, vous savez, c'est les grandes plateformes de VTC, se sont spontanément proposées pour aider les pouvoirs publics dans la campagne de vaccination, en amenant, par exemple, les personnes âgées au centre de vaccination, en les ramenant, en se servant de leur application pour informer les utilisateurs. Ça a été très bien accueilli par l'administration Biden. Voilà un exemple de partenariat public-privé intelligent. Pourquoi la France, on n'y parvient pas ? Mystère.
Voilà, l'affaire Finkielkraut, nous en parlerons à 8h40 avec Patrick Lugman, l'avocat, et avec Guylaine Tenemer. Nous allons passer au journal imprévisible. Destitution demandée semaine après les violences du Capitole. Voici...